Collège public CEDES, bonjour.
La leçon d'aujourd'hui, parabole du semeur, première partie.
Deuxième leçon, nous sommes encore dans Marc 4. Donc nous sommes toujours dans cette journée où Jésus a enseigné au moins 10 paraboles, dont la plupart, enfin toutes concernaient le royaume de Dieu et la plupart concernaient la parole. Marc 4, verset 3. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60, 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia, je te bénis pour ta parole, Seigneur. Et merci pour les oreilles spirituelles dont que tu nous as données. Je te prie, Seigneur, que nous sachions entendre avec notre cœur et notre esprit. Merci, Père. Te bénissons. Alors, cette parabole du semeur, vous la connaissez tous, elle est très célèbre. Mais elle est très importante. Elle est très très importante puisque il nous est dit que cette parabole-là, c'est une parabole qui est fondamentale. Elle fait un fondement. Et non seulement elle fait un fondement, mais elle permet de comprendre tous les autres enseignements de Jésus. Je vais dire au verset 13, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Il parlait de celle-ci. Jésus parle à ses disciples et dit, vous posez des questions par rapport à cette parabole. Si vous ne comprenez pas celle-ci, mais vous pouvez partir, vous ne comprendrez aucune. Celle-là, elle est fondamentale. Donc j'ai parlé tout à l'heure d'une, et on aurait pu commencer par celle-ci aussi, parce qu'elle est vraiment fondamentale. Cette parabole-là, on pourrait prendre l'image de la pierre de Rosette. Vous savez ce que c'est la pierre de Rosette? La pierre de Rosette, c'est une pierre, vieille pierre qui a été trouvée. Vous savez que pendant très très longtemps, jusqu'au temps de Champollion, on ne savait pas lire les hiéroglyphes. Et cette pierre, un jour, a été trouvée. Il se trouve qu'elle avait un texte écrit en trois langues. Deux langues connues et une langue hiéroglyphique. Le fait que les deux langues aient été connues ont permis à des gens de comprendre le sens du message, déjà de savoir que c'était trois fois le même, puisqu'il y en avait deux de connues, et du coup, d'interpréter le troisième, celui avec les hiéroglyphes. Et depuis la pierre de Rosette, on est capable de déchiffrer quasiment tous les hiéroglyphes et de lire beaucoup, beaucoup de choses d'une époque qui est lointaine et passée. Eh bien, cette parabole du semeur, elle est un petit peu comme cela. C'est-à-dire qu'en comprenant le sens que Jésus voulait donner à cette parabole, cela va ouvrir à beaucoup d'enseignements de Jésus. Et de manière plus large, ça va ouvrir à beaucoup de compréhensions spirituelles. La première chose à voir déjà, c'est que Jésus a parlé en parabole. Et tout à l'heure, donc, j'ai expliqué que la parabole, c'était une métaphore ou une comparaison entre deux objets, deux systèmes, deux concepts. Et cette comparaison, si on en connaît un et on dit cette autre chose, ce concept ressemble à celui-ci, alors on comprend le concept, quelque chose qu'on ne verrait pas forcément. C'est d'ailleurs comme ça qu'on explique les mots, hein. Dictionnaire ne fait que prendre d'autres mots pour expliquer un mot du dictionnaire. Et donc la parabole, là aussi c'est important. Vous voyez au verset 10, il est dit, après que Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, on voit que les disciples, les 12, l'interrogent sur les paraboles. Et il leur dit, je suis donc au verset 11 de Marc 4, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. C'est-à-dire, effectivement, il y a des choses qui sont mystérieuses. Mystérieuses, ça veut simplement dire qu'il n'est pas encore connu, qu'il n'est pas dévoilé, qu'on ne connaît pas. Eh bien, vous, je vous livre ces choses du royaume de Dieu. Jusqu'à présent, ça n'était pas compris. Et maintenant, je suis en train de vous l'expliquer. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soit pardonné. Il leur dit encore, c'est ce qu'on a vu, vous ne comprenez donc pas cette parabole, comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Jésus est en train donc de dire pourquoi est-ce qu'il parle en parabole. Pourquoi est-ce qu'il parle en parabole? Parce qu'en fait, et c'est ce qu'il est en train de dire là, il faut bien comprendre dans ce passage quand il est dit, c'est dit en parabole afin qu'ils ne comprennent pas. Ça paraît un peu dur. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est, d'ailleurs ça fait référence à Ésaïe au chapitre 6, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est eux qui ne veulent pas comprendre. En fait, ils ne veulent pas, dans le contexte d'Ésaïe 6, ils ne veulent pas entendre ce que Dieu dit, ils ne veulent pas se rapprocher de Dieu, ils ne veulent pas aller vers Dieu pour recevoir, parce qu'en fait, ils ont peur de ce qui va se passer. Et c'est pour ça que Jésus dit, de peur que leur péché ne soit pardonné. Ils sont tellement dans un blocage vis-à-vis de Dieu qu'ils ne veulent pas entendre parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer. Et ce n'est pas du tout parce que Dieu ne veut pas expliquer. La preuve, c'est qu'il l'a expliqué justement à ses disciples. Donc c'est bien qu'il voulait l'expliquer. Par contre, pourquoi est-ce qu'il l'a donné en parabole? Pour que ceux qui cherchent et ceux qui le veulent puissent trouver. Mais que ceux qui ne cherchent pas ne tombent pas malencontreusement ou contre leur volonté dessus. C'est une parenthèse. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre en tout cas, et c'est ce qu'on a dit, c'est la compréhension qui va se faire de cette parabole, elle doit passer non pas par un raisonnement humain, par uniquement la connaissance intellectuelle, ça doit aller dans le cœur, ça doit être éclairé par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que c'est vraiment important pour nous d'être baptisés du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui va nous expliquer justement ce que ça signifie, qui va attester dans notre cœur effectivement ce que j'entends correspond bien à la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on remarque dans cette parabole? On voit déjà qu'il y a quatre sols. Jusque-là, c'est facile. On voit qu'il y a quatre sols. Et une chose qui est importante à savoir, c'est que le sol, il n'a aucune puissance particulière en tant que tel. On l'a dit tout à l'heure, la puissance, elle est dans la graine. Si vous avez un sol sans graine, il ne pousse rien. C'est parce qu'il y a une graine dans le sol que ça pousse. Le sol n'a pas la puissance. C'est la graine qui a la puissance. Le sol, lui, va juste fournir l'habitat pour la semence. Ce que Jésus explique dans cette parabole, je ne vous fais pas l'injure de vous l'expliquer, vous connaissez par cœur. Ce que Jésus est en train de dire, c'est votre cœur, il est l'habitat, il est le réceptacle de la parole. La puissance ne vient pas de votre cœur, la puissance, elle vient de la parole planté dans votre cœur. Et vous allez voir pourquoi c'est vraiment important. Pourquoi c'est important? Parce que si la puissance venait de nous-mêmes, de notre cœur, alors, eh bien, on serait bien embêté selon d'où on vient, selon notre origine familiale, selon notre statut social, selon est-ce que j'ai de l'argent, est-ce que j'ai pas d'argent, selon mes qualités ou pas. En fait, tout reposerait sur moi plutôt que sur Dieu. Et là où c'est merveilleux, c'est que Jésus est en train de dire les choses fonctionnent à cause de la parole que moi je sème dans votre cœur, sans que votre cœur lui-même soit la puissance. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous le réalisez, mais c'est quelque chose, moi, qui m'a fait énormément de bien. De me dire, en réalité, je n'ai pas besoin, moi, d'être autre chose qu'une terre. Je n'ai pas besoin de savoir parler brillamment, je n'ai pas besoin d'avoir pris des cours pour faire ci ou ça. J'ai pas besoin, en tout cas, de forcément être né dans la bonne famille. J'ai pas besoin de forcément avoir suffisamment d'argent. J'ai pas besoin de faire ci ou ça. Parce que la puissance, elle est dans la parole. Elle n'est pas dans celui qui amène la parole. Regardez ce qui est dans Exode 4. Exode 4, verset 10. C'est l'histoire où Moïse est choisi par Dieu. Et Moïse va trouver une excuse. Il va dire à Dieu, moi j'ai une langue, comment il dit, en tout cas il se plaint de sa langue. Il dit, j'ai des problèmes de langue, je ne peux pas parler. Voilà, j'ai la langue empruntée, on ne sait pas exactement ce que ça signifie. En tout cas, Moïse va trouver une excuse pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il se fâche contre Moïse. Pourquoi est-ce qu'il se fâche contre Moïse ? Pour lui faire comprendre que on se fiche de la langue de Moïse. Ouais. On se fiche des capacités de Moïse. On n'a pas pris Moïse parce qu'il est le meilleur des hommes. On a pris Moïse parce qu'il est capable d'amener cette parole. C'est la parole qui est donnée. C'est la foi que Moïse va avoir en Dieu qui agit. Quand Moïse a pris son bâton et qu'il a frappé la mer rouge et que la mer rouge s'est ouverte, qu'est-ce qu'il avait à voir là-dedans, Moïse? Qu'il ait tapé plus ou moins fort, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Pareil, quand il tape sur le rocher, la première fois en tout cas, et que de l'eau coule, est-ce que vous croyez vraiment que ça vient de quelque chose de Moïse? C'est Dieu lui-même qui fait les choses. Dieu fait les choses et Dieu se sert non pas de gens qui ont les meilleures qualités, mais des gens qui sont disponibles pour le servir. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous encourager tous. C'est-à-dire que quand moi je vais prier pour quelqu'un, je ne vais pas être rassuré si moi-même je suis bien, si moi-même j'ai passé suffisamment de temps à lire la Bible, si moi-même je me suis assez sanctifié, si moi-même j'ai fait telle ou telle chose. Ma foi doit être non pas dans ce que moi je suis, mais dans la puissance de la parole. Ça ne dépend pas de moi. Et à chaque fois qu'on va faire tourner quelque chose sur vous, ce sera à côté de la plaque. À chaque fois qu'on va vous dire, si tu veux servir Dieu, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, d'un point de vue humain. Ou mais c'est normal qu'il n'ait pas été guéri, tu n'as pas prié assez avant. Mais ça ne vient pas de la prière même. Ça vient de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit être reçue et qui doit être semée. C'est là que la puissance, elle n'est pas dans la terre. Elle n'est pas dans l'homme. Et voilà pourquoi Dieu s'est fâché envers Moïse, sous-entendu. Mais qu'est-ce que tu crois? D'ailleurs, si vous regardez, il est un peu choquant la suite de ce passage, puisque Dieu dit, mais c'est moi qui fais... Attendez, on va le dire comme ça. C'est souvent utilisé pour faire croire que Dieu fait le mal, alors que ce n'est pas le cas. Verset 11, l'Éternel dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. C'est-à-dire, c'est ce qui compte, c'est ce qui sort de ma parole. Enfin, c'est la parole qui est prononcée, c'est ce qui sort de ta bouche. Le reste, que tu sois sourd ou pas sourd, que tu sois aveugle ou pas aveugle, j'en ai en fait rien à faire. Parce que la puissance, elle n'est pas dans l'être humain. Et ça doit nous rassurer. Ça doit nous motiver en disant, mais moi, je peux autant prier que les gens que j'ai vu dans le Nouveau Testament, parce que je peux autant être une terre que eux, ils ont été une terre. J'ai pas forcément la même expérience, j'ai pas le même vécu. Il y a des choses qui vont différer d'une personne à l'autre. Il est vrai qu'il y a des gens qui vont avoir plus de facilité dans un domaine ou dans un autre, mais tu dois pas t'appuyer là-dessus. Même quand je vous parle, je ne dois pas m'appuyer sur le fait de est-ce que je suis capable ou pas de parler. Je suis simplement en train de me dire, la parole que je dis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, elle va porter du fruit. Pas parce que moi je la dis, parce qu'elle est dite tout court. Ça c'est merveilleux. Et ça c'est merveilleux. D'où une fois de plus, et je m'excuse, je me répéterai souvent, mais c'est vraiment pour que ça rentre dans le cœur. Il faut planter la parole de Dieu dans notre cœur. Il faut que ce qui est dans notre cœur puisse sortir, puisse jaillir. Vous voyez Jésus qui disait, les fleuves d'eau vive qui jailliront de votre sein, de l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour faire jaillir quelque chose de moi-même? Cette puissance, ce fleuve dont il est parlé, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui sort de nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Remarquez qu'il y a un seul des quatre sols qui a porté du fruit. Et ça aussi, c'est très important. La parole a été semée dans les quatre sols. La parole a été semée dans les quatre cœurs. Un seul a porté du fruit. Et même dans celui qui a porté du fruit, c'est le seul d'ailleurs où il y a des résultats différents. 30 fois, 60 fois, 100 fois. Et bon, c'est assez habituel d'ailleurs que dans une église, dans une assemblée, vous connaissez la règle des 80-20. Souvent c'est 20% du résultat est fait avec 80% de l'effort, et 80% de l'effort est fait avec 20% du résultat. Et ça arrive aussi souvent dans les églises que un résultat soit vu, finalement, grosso modo, une personne sur quatre. Bon, c'est pas une doctrine du tout, c'est une remarque bien souvent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, cette parabole du semeur, elle décrit chacun des cœurs. Chacun des cœurs. Et je dirais même plus, elle peut décrire chacune même de nos vies, c'est-à-dire que nous-mêmes, on peut aussi passer par ces quatre étapes. Et bien souvent, c'est le cas. Et donc, forcément, quand on est dans trois de ces quatre étapes, ben, y a moins de fruits ou pas de fruits. Mais ça ne dépend pas, là, de la puissance qui est dans la graine. Ça ne dépend pas de la parole qui est semée. Là, ça dépend du sol. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que la parole a le même potentiel en chacun de nous. si c'est la parole de Dieu qui est prêchée, si c'est elle qui est annoncée, que ce soit par une personne ou par une autre, ne change pas. Il y a le même potentiel, puisque justement la puissance est dans la parole. En fait, je dirais, et c'est un peu ce que Jésus explique dans cette parabole, il faut pour nous-mêmes, quelque part, qu'on se dise « qu'est-ce que je vais faire, moi, avec cette parole ?» Maintenant que je comprends que cette terre, c'est mon cœur, maintenant que je comprends que Dieu, en fait, envoie sa parole. Vous savez, à l'époque, c'était pas une semence calculée, hein, où on va savoir précisément que le meilleur moyen pour que ces plantes poussent du meilleur rendement possible, il faut les espacer de 12 cm, alors que cette espèce, c'est de 30 cm. Et on met une seule graine et on a des rendements très forts. À l'époque, c'était pas du tout ça. À l'époque, c'était un gros sac et je te jette les graines, un peu comme j'avais fait il y a quelques années dans mon gazon. Je regarde ça et puis je vois toutes les fourmis qui prennent les graines de gazon. Je dis, c'est pas vrai. Ça fait penser aussi un peu à cette parabole. Et vous remarquez que le résultat, les fruits, dépendent de l'état du cœur. Les quatre sols représentent quatre états de cœur. Le fruit pousse là où le cœur le permet. À nous, effectivement, de vouloir être cette bonne terre. À nous de faire en sorte que notre cœur soit cette bonne terre. Et remarquez quelque chose d'encourageant, en plus, parce que j'aime bien donner des choses encourageantes, c'est que le sol qui a produit le plus, c'est celui qui en avait le moins. Moins de dureté, moins de cailloux, moins d'épines. C'est-à-dire que il ne nous est pas demandé de produire plus de nous-mêmes. On n'a pas, nous, à produire plus. À la rigueur, peut-être à faire moins. Avoir un cœur moins dur, peut-être. Avoir peut-être moins d'épines, moins de cailloux dans nos vies. Ça, oui. Verset 15. Je lis dans la version Osterwald. Marc 4, 15, donc c'est le premier sol. Celui qu'on va étudier, le premier sol, c'est celui qui est le long du chemin. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est semée, donc là c'est clair, mais aussitôt qu'ils l'ont entendu, Satan vient et enlève la parole qui avait été semée dans leur cœur. La parole est semée, dès qu'elle est semée, le long du chemin, Satan vient et enlève cette parole. Ce type de sol, c'est le seul sol où Satan a libre accès pour enlever la parole. Dans les autres sols, il peut essayer, on le verra après. Mais dans celui-ci, il a un accès direct, libre. Autre point très important, ça aussi, vis-à-vis de notre ennemi, ce que le diable cherche à détruire ou à réduire, ce n'est pas nous, c'est la parole. C'est la parole qui l'inquiète, parce que la parole porte du fruit. Nous, en nous-mêmes, vous savez, le diable, on ne va pas lui faire grand-chose en tant qu'être humain. Bien souvent, on l'aide même dans sa tâche, malheureusement. Mais ce qui a vraiment une puissance, je le répète, ce n'est pas nous-mêmes. Ce qui a une puissance, c'est la parole. Et c'est pour ça que, on va le voir dans tous les sols, le diable vient pour essayer de voler cette parole, d'enlever cette parole. Parce que si cette parole est semée, il est mal. Il est très très mal. Et ce premier sol, c'est le sol qui est dur. C'est le long du chemin. Matthieu 13, 19, c'est exactement la même parabole, sauf que ça nous donne une explication supplémentaire par rapport à cette parabole dans Marc 4. Il est dit, lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Qu'est-ce que nous dit Matthieu de plus par rapport à Marc ? Il nous dit, c'est l'homme qui a reçu cette parole, il l'a écoutée, mais il ne la comprend pas. Il ne la comprend pas. C'est-à-dire que le diable a accès pour enlever la parole dans un cœur lorsque la personne ne comprend pas ce qu'on lui dit. C'est aussi simple que ça. Lorsque ça ne fait pas écho, lorsque c'est trop complexe. D'où l'importance, effectivement, des ministères d'enseignement. D'où le fait de pouvoir expliquer le plus simplement possible. Parce que si on explique que c'est compliqué, le diable a tout accès pour enlever cette parole. Elle aura beau être bonne, elle aura beau être puissante, elle va disparaître. Parce qu'elle n'a pas pu rentrer dans le cœur, parce qu'on n'a pas compris ce qu'on voulait dire. On n'a pas compris à quoi ça servait. Il faut effectivement réussir à trouver le moyen à la fois de proclamer la parole, de dire les choses telles que la parole le dit, mais aussi de les expliquer, pour qu'on comprenne réellement ce que ça veut dire. Et chacun de vous, si vous êtes dans ce collège, c'est aussi pour ça. c'est aussi pour grandir et pour pouvoir expliquer le plus simplement possible aux autres la parole, pouvoir la donner le plus simplement possible. Est-ce que vous réalisez que plus vous le donnerez simplement, moins le diable aura d'accès pour pouvoir l'enlever? Et plus vous serez brouillon et compliqué, plus le diable aura d'accès pour l'enlever. Quelqu'un dira, bon, il est bien gentil, mais ça me dépasse.
Alors que quelque chose de simple,
ça va marquer le cœur. Je pense que c'est aussi pour ça que Jésus expliquait des choses avec des mots simples, même si parfois, ça pouvait nous paraître un peu compliqué. Mais en tout cas, il faut là aussi se mettre à la portée de celui qui écoute. C'est important aussi d'arriver, lorsque vous allez donner cette parole, lorsque vous allez semer dans le cœur de quelqu'un, de vous mettre à la portée de celui qui écoute. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités pour comprendre, pour recevoir. Si vous parlez à un enfant de 5 ans et que vous lui dites « si tu fais ça mal, ça va mal se passer pour toi, tu risques de divorcer quand tu seras plus grand, tu vas perdre ton boulot », il va te regarder avec des grands yeux en disant « mais de quoi tu parles ?» Ça ne marchera pas. De la même manière, si tu parles comme à un enfant, à quelqu'un de mûr, voire de très âgé, il ne va pas non plus comprendre. Tu me prends pour un imbécile ou qu'est-ce que tu veux dire par là? Il faut se mettre à la portée aussi de la personne, arriver à juger ce qu'il est capable de comprendre et l'expliquer le plus simplement possible. Et ce point-là m'a vraiment marqué parce que je me rappelle quelqu'un de notre famille qui avait suivi une formation biblique. Et cette personne est venue et m'a raconté son expérience, cette formation-là. Elle m'a dit, c'était extraordinaire, vraiment extraordinaire. Le prof était là, un puits de science, il connaît toute la Bible par cœur. Il peut citer n'importe quel verset. Ça a été extraordinaire. C'était intense, ça a duré toute la journée, etc. Mais vraiment, c'était super. Alors je me suis tenté. Je dis, et alors, ça parlait de quoi? Et là, il me dit... Ben en fait, je sais pas, mais c'était très compliqué, mais c'était super. Fait véridique, hein, véridique. Et j'ai même parlé à son épouse qui a commencé à me sortir des mots que je ne comprenais même pas. Il faut savoir malheureusement que ça se passe, ça existe. Il y a des gens qui mettent leur fierté dans le fait de pouvoir parler comme des dictionnaires. C'est une erreur absolue parce que le diable va venir et tout est perdu. Et je ne dis pas que les gens font bien ou mal dans le sens où... ils font ce qu'ils ont à faire, sauf que le fait d'aller à ce niveau où on ne comprend rien, c'est du vent. Ça ne sert à rien. C'est malheureux, mais ça existe. Donc ça, c'est important pour nous. Ce premier sol, donc, c'est ceux qui ne comprennent pas. Et il faut pour nous pouvoir semer et faire comprendre. Attention, par exemple, on est entre nous, c'est facile, on utilise du jargon, hein, comme on dit, nous, du patois de canard. Mais les gens ne comprennent pas forcément le patois de canard non plus. Il y a plein de choses qu'ils ne savent pas sur la Bible, sur Jésus, sur Israël, sur des concepts que nous, on connaît et qui nous sont faciles, mais attention quand on parle avec les gens. Jésus disait des choses simples aussi. Je le crois. Allez, on passe au deuxième sol, les endroits rocailleux. C'est Marc 4, 16 et 17. Ce coup-ci, je vais lire dans la version d'Arnie. Donc Marc 4, 16 et 17. Et pareillement, ceux qui sont semés sur les endroits rocailleux, ce sont ceux qui, quand ils ont entendu la parole, la reçoivent aussitôt avec joie. Et ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, mais ne sont que pour un temps. Puis, quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés. Et Louis II dit, par exemple, ils y trouvent une occasion de chute. Donc là, c'est le deuxième sol. Qu'est-ce qu'on voit dans ce deuxième sol? Il s'agit là de personnes qui ont entendu la parole et qui l'ont comprise, puisqu'on n'est plus dans le premier sol. Non seulement ils l'ont comprise, mais ils la reçoivent avec joie. Waouh, super, c'est génial. Le Seigneur guérit, c'est extraordinaire, j'ai compris. Je suis allé à la conférence sur la guérison, j'ai compris, le Seigneur guérit. Mais la suite nous dit, ils n'ont pas de racines. Et qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas de racines et du coup... à la fin, survient la persécution, la tribulation à cause de la parole et ils sont scandalisés ou ils chutent. En fait, il y a une occasion de chute. Eh bien, le premier point sur lequel je voulais mettre, c'était ils reçoivent avec joie cette parole. Et vous savez que bien souvent, on a ce cliché qui est vrai, c'est que le jeune converti, il est tout feu, tout flamme, il est content, il est heureux. Et puis, jusqu'au moment où il va à l'église et au bout de 6 mois, eh bien, il rentre dans le rang. Et là, il n'est plus très heureux, et là, il est déprimé comme les autres, etc. Bon, je caricature un peu, mais des fois, ça ressemble un peu à la réalité, malheureusement. Eh bien, cette joie dont il est parlé me fait penser au haut et au bas qu'on peut avoir. Des fois dans la vie, on a des hauts et puis des bas. Et même chez certaines personnes, c'est des cycles récurrents.
Je suis en haut et en bas, je fais le cosinus ou le sinus. Je suis en haut et en bas, en haut et en bas.
Bien, l'explication de cette parabole et de ce cœur, c'est que ces hauts et ces bas viennent du manque de racines. Plus les racines sont profondes, moins il y aura de bas et de hauts distincts. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de hauts ni plus de bas. Ça veut dire que l'amplitude va au fur et à mesure diminuer pour grandir dans la joie au fur et à mesure. Et on arrive au point où Paul, en prison, écrit des lettres et dit « Soyez toujours joyeux ». Ce n'est pas quelqu'un qui était soumis au haut et au bas comme on peut l'être, parce que ça y est, je me suis cassé un ongle, ou parce que la promo est terminée depuis hier, parce que je voulais acheter telle chose. J'exagère exprès. Vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas, à un moment donné, les circonstances. Si les circonstances nous dictent nos hauts et nos bas, nos joies et nos tristesses, nous sommes malheureux. Et la solution à cela se passe par les racines. C'est ce qui est expliqué dans cette parabole. La parole n'a pas pu agir dans la vie de ces gens-là autant qu'elle le voudrait, autant qu'elle le faudrait, parce que justement, ils n'avaient pas de racines. Et je vais revenir un petit peu sur la botanique. C'est le sujet d'aujourd'hui. Si vous faites une expérience, vous prenez deux pots avec la même terre, le même terreau. L'un va être profond et l'autre très peu profond. Et vous semez une graine de tomate dans chacun. Vous exposez à la lumière chaque plant de la même manière, vous arrosez de la même manière, la température est la même de la même manière. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ce qui se passe, c'est que celle qui a un terrain très peu profond va grandir tout de suite et très vite. Tandis que l'autre ne va pas sortir de terre tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'une va utiliser l'énergie qu'elle a pour construire des racines. Alors que l'autre va utiliser l'énergie qu'elle a pour faire ce qu'elle peut. Or, elle n'a pas de place pour faire ses racines, donc ça va sortir. Et au premier abord, on va dire « Waouh, ça va vite, c'est super, ça marche, il y a une tige, il y a des feuilles, c'est génial. » Mais il n'y a pas eu les racines. Ce qui fait que, qu'est-ce qui se passe juste après? Ça devient blanc et ça meurt. Et ça ne porte pas de fruits. C'est comme ça que ça fonctionne. Les racines ont un rôle capital sur les plantes. Et spirituellement, c'est le cas pour nous aussi. Spirituellement, c'est le cas pour nous aussi. Vous savez par exemple qu'on contrôle la taille des bonsaïs par leurs racines. On va couper les racines pour éviter qu'ils grandissent trop. Par exemple, c'est comme ça qu'on fait des bonsaïs. On travaille leurs racines. Bon, il y a aussi des coupes, c'est plus complexe que ça, mais voilà. Et comme on en avait parlé tout à l'heure, il faut du temps pour qu'un réseau de racines se construise. Mais c'est bon, il faut prendre le temps pour que ça se construise. Et on va tous voir un grand arbre, et j'ai un livre à la maison pour les enfants, c'est Franklin, la tortue, vous connaissez. Et Franklin, on lui promet à l'école qu'il va avoir un arbre. Et il est tout content parce qu'il connaît l'arbre de Monsieur Hibou, je ne sais plus lequel, et dans lequel il y a une cabane. Et il se dit, moi, je vais avoir ma cabane dans mon jardin, ça va être extraordinaire. Et donc il va à l'école avec tous ses copains, et quand il arrive, tout le monde fait la queue. Et donc tous ses copains prennent un tout petit plant, comme ça. Il y a juste un petit sachet avec un peu de terre et une toute petite tige. Mmh. Et il y a une étiquette avec érable ou ce que vous voulez. Et lui, il arrive, mais où est mon arbre? Je veux un arbre. Et on lui explique, on dit, c'est un arbre. Ah non, 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 je ne peux pas faire de cabane là-dedans, c'est pas un arbre. Et ce qui se passe, c'est que du coup, quand il ramène son arbre à la maison, eh bien, il ne l'aime pas, son arbre. Et il le perd en route. Et puis, il arrive à la maison, son papa lui dit, « Alors, tu as reçu ton arbre ?»« Oh, non, puis je ne sais même pas où il est, d'ailleurs, j'ai dû le perdre, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas content. » Ça rappelle peut-être des fois des conceptions qu'on peut avoir, hein, avec le Seigneur. « Ah, j'aurais bien aimé que ça marche, il n'y a pas de résultat, je ne suis pas content. » Et puis, il retourne à l'école, parce que quand même, il se dit, « J'ai perdu mon arbre. » Et puis, il voit ses copains. Et puis, il y a un copain qui a planté l'arbre, et il l'écoute, il dit, alors tu as fait quoi? J'ai planté mon arbre et je vais venir tous les jours l'arroser. Ah bon? Et puis il continue, il rencontre un deuxième copain qui a mis une barrière peinte en rouge. Prends soin de son arbre, ça le protégera comme ça des animaux. Ah bon? Et Franklin se met à comprendre l'importance que cet arbre qui est tout petit, ses racines toutes petites, ont de l'importance. Et puis il arrive vers le maître et puis il lui dit toute son histoire. Il dit, moi je suis triste parce que je voulais un grand arbre, etc. Et la fin est très belle parce que le maître lui dit, tu vois, il sort une photo, il dit, tu vois, ça c'est quand j'étais petit. Eh bien, j'ai refait la même chose que ce que le maître que j'avais à l'époque quand j'étais petit a fait avec moi. Il m'a raisonné un arbre. Il dit, ah bon, mais il est où ton arbre? Et puis tu regardes. Il est juste derrière, énorme, et c'est celui de la cabane. Et c'est merveilleux. Et c'est le temps qu'il faut pour construire quelque chose. Et on va, nous, voir ce grand arbre et on dit, mais je veux ce grand arbre. Oui. Mais combien de temps est-ce que cet arbre a fait ses racines? Combien de temps est-ce que cet arbre a été arrosé? Combien de temps il a été protégé? Ah, c'est quelque chose pour nous. C'est important. Vous savez également que on a la bambouserie bambus, pas très loin d'ici. Vous savez que les bambous ont cette particularité. Alors, ce n'est pas vraiment des arbres, ce sont des herbes. Mais peu importe, ce sont des végétaux. Eh bien, ont la particularité, certains, de pousser très très vite. On dit jusqu'à quasiment 1 mètre en 24 heures, ce qui est extraordinaire. Et là aussi, c'est pratique. Hein. J'imagine, j'achète une maison comme ça. Il y a beaucoup de soleil dans la région. Vite, 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 je vais planter une plante qui pousse vite. D'ailleurs, tout le monde fait ça, hein, ici. Vite, un mûrier platane, quelque chose qui va vite. Je veux quelque chose vite, 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 tout de suite. Et là aussi, on pourrait dire, ben, le bambou, tiens, je veux quelque chose qui pousse aussi vite que ça. Mais vous savez que ce bambou, par exemple, qui peut pousser d'un mètre en 24 heures, sauf erreur de ma part, passe plusieurs années dans le sol sans que rien ne se passe. Simplement en train de construire tout le réseau de racines. Hein, je ne me trompe pas, il y en a qui savent. Ouais. Il y a plusieurs années d'attente et de construction qui font qu'ensuite, oui, ça peut aller vite. Quand les racines sont prêtes. C'est important pour nous et c'est ce qui est super, c'est ce que vous êtes en train de faire. Là, vous n'en avez pas rendu compte, mais vos racines ont déjà poussé un petit peu.
Amen.
C'est vrai.
Amen.
C'est vrai, c'est la puissance de la parole. Alors, Marc 4, 30 à 32. La parabole du grain de sève. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Voilà, ça c'est clair. Maintenant, je veux expliquer ce que c'est que le royaume de Dieu. Il est semblable à un grain de sève qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, il devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. On voit très clairement là qu'il y a une progression. D'une part, on voit que cette graine n'a pas besoin d'être énorme. Il suffit de très peu. La parole de Dieu est suffisamment puissante en elle-même pour qu'un seul mot et la chose s'accomplit. Un seul mot. Il n'y a pas besoin d'un chapitre entier ou d'un livre entier. Un seul mot. Premier point, c'est que la semence, la puissance est là-dedans. Ensuite, il y a cette croissance. Mais regardez l'objectif. Pourquoi est-ce que cette plante va grandir? En sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et ça, c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Dieu veut que le monde puisse venir sous notre ombre. Puisse se dire, là, je suis protégé du soleil. Là, je suis tranquille. Là, je suis béni. Je veux être à ton contact. Tu m'apportes quelque chose. J'ai besoin que tu m'expliques quelque chose. J'ai besoin de connaître ce que tu as et que je ne connais pas. Ça, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. Et ça se produit lorsque cette graine de sève prend le temps, monte, fait ses branches, et ensuite les oiseaux peuvent venir. Et ce qu'on peut en tirer aussi, c'est que peut-être qu'on a déjà prié en disant, Seigneur, moi j'aimerais que les oiseaux viennent pour s'abriter à mon ombre. J'aimerais faire des grandes choses. J'aimerais, alors chacun met ce qu'il peut imaginer, hein, j'aimerais avoir un ministère dans ci, un ministère dans ça, j'aimerais être reconnu pour ci, pour ça. Là aussi, ce n'est pas une doctrine, c'est juste personnel ce que je vous livre, mais il est probable que le Seigneur n'ait pas forcément répondu à certaines prières de ce style, parce que justement, si les oiseaux étaient venus sur nos branches et que nous n'avions pas assez grandi, nos branches se seraient cassées. Et la ruine aurait été et pour les oiseaux et pour nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas forcément appréhender tout de suite. Vous ne pouvez pas vous dire, par exemple, eh bien, maintenant je vais être le pasteur d'une église et prêcher devant 500 personnes si tu n'as pas prêché devant 5. Ça ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas arriver sonner à la porte d'une entreprise en disant, excusez-moi, je viens pour être directeur. Où est mon bureau? Ça ne se passe pas comme ça. Ça peut se passer comme ça si tu as commencé à un certain niveau, que tu as fait tes preuves, et quand tu as grandi et que tu commences à avoir des branches, là tu peux effectivement ensuite recevoir des oiseaux du ciel. Et j'espère que ça répond à des questions que vous pouviez avoir peut-être.
Oui.
Ce qui se verra, ce qui va se voir dans nos vies, va dépendre des racines. Et si moi je suis en train aujourd'hui de vous parler là, c'est parce que j'ai laissé des racines pousser en moi. Je ne peux pas être capable de vous parler de la Bible si je n'ai pas laissé des versets s'imprégner en moi. Ce n'est pas possible. Et ce que vous voyez aujourd'hui est en réalité le fruit de beaucoup d'années. Mais c'est génial. C'est génial parce que ça veut dire que ça fonctionne. Ça veut dire que c'est pas grâce à moi, c'est pas parce que j'ai calculé quelque chose, parce que j'ai voulu quelque chose, c'est parce que j'ai planté. Ce collège qui arrive aujourd'hui a commencé avec une vision, avec une semence, avec une toute petite graine. Et il n'y avait rien. Et il y a aussi, il y avait quelqu'un qui était très craintif, rempli d'aucune confiance en lui-même, et qui se disait, je suis gêné, je ne peux pas faire grand-chose. C'est comme ça que ça commence. Et la puissance vient de la parole de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux. Ça veut dire que ça marche pour chacun de nous. Ça veut dire qu'aucun de nous n'est différent dans ce domaine-là. Ça veut dire que la même loi va s'appliquer pour chacun. Ça veut dire que toutes les racines que vous allez faire croître vont montrer un résultat visible. Toutes. Et ce résultat va dépendre des racines. Par rapport à ce qu'on veut faire pour Dieu, si tu te rends utilisable, alors Dieu t'utilise. Il faut se rendre juste utilisable. C'est-à-dire pas je fais comme moi je veux, mais je suis à ta disposition. Me voici, envoie-moi. Je ne sais pas forcément ce qu'il faut faire, me voici, envoie-moi. C'est comme ça que le Seigneur agit. Le Seigneur cherche la foi. Et lorsqu'il rencontre la foi, il est bien heureux. Bien heureux parce qu'il sait qu'il peut planter une graine qui va pousser quelque chose de bon. Les racines, c'est quelque chose de puissant, donc vous comprenez tous l'image, bien évidemment. Avoir des racines, ça veut dire être plongé dans la connaissance de la parole de Dieu, être plongé. Et quand je parle de la connaissance de la parole de Dieu, je ne veux pas dire connaître les versets par cœur. Je suis très loin de connaître les versets par cœur, même si ça vient tout seul, en fait. Au fur et à mesure, ça commence à venir. Les racines, c'est s'imprégner de ce que Dieu dit. Ça ne veut pas dire lire la Bible 50 fois d'affilée, et plus je la lis, mieux c'est. Ça veut dire, je prends une graine. Ça peut être un verset. Un seul mot dans un verset. Et cette semence, je la médite. Je la plante dans mon cœur et elle va porter du fruit. Cette parabole nous dit, c'est un grain de semé, c'est la plus petite. La plus petite de toutes les graines. Je vous inquiète de ça. C'est extraordinaire. Hein. Je reviens maintenant sur notre parabole du semeur. Puisqu'il nous est dit, au verset 17, que ces gens-là donc reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Et voilà ce qui se passe. Quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés. Et là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Le diable veut lutter contre la parole. Il veut lutter contre ceux qui peuvent le détruire. Vous remarquez que quand les Américains étaient allés bombarder en Irak ou dans ces coins-là, prenaient leur aviation, ils allaient bombarder les points stratégiques, les usines qui allaient faire de l'électricité, les chars, enfin voilà, les aéroports, ces points-là sont stratégiques. Le diable n'est pas plus bête qu'eux. Il va attaquer ce qui est stratégique pour lui. Il va attaquer la parole. Après, ça peut passer par nous. C'est-à-dire que, par exemple, il va vouloir nous faire douter de quelque chose. Tu reçois avec joie une parole, tu dis ça, et j'ai compris, maintenant je fonce. Il va tout faire pour provoquer un événement qui va t'amener à douter. Tu dis, alors, t'es sûr que tu avais si bien compris? Est-ce que Dieu a réellement dit que... Est-ce que c'est vrai ça? C'est la parole qui va attaquer. En fait, quand bien même le diable veut nous détruire, sachez que c'est pas nous personnellement. Il n'en a pas contre nous personnellement. Il en a contre la parole en nous, plus que contre nous-mêmes. Alors c'est ça que j'appelle les tribulations et les persécutions. Les tribulations et les persécutions, ça va être, par exemple, eh bien ça y est, je viens de me convertir, je viens de trouver le Seigneur, je viens de comprendre des choses, et puis ma famille me rejette. Et puis mon meilleur ami, d'un coup, me dit, mais oh, qu'est-ce qui t'arrive, t'es un peu zinzin là. Et là, si j'ai pas de racines, eh bien ça devient pour moi une occasion de chute, une occasion de scandale. Là, ça devient difficile pour moi de devoir faire un choix. Qu'est-ce qui se passe? Je perds mon amitié, je reste fixé sur la parole, Je fais quoi? La seule manière de bien répondre à ça, c'est les racines. C'est les racines. C'est se plonger dans la parole de Dieu. C'est important, par exemple, de penser à ce passage de Romains 3, 4, qui nous dit que Dieu a raison, Dieu sait la vérité, il faut que tout homme soit reconnu menteur devant Dieu. La parole de Dieu, c'est elle qui est la vérité. Ce que nous diront nos amis, notre famille, nos proches, notre patron, ce n'est pas la vérité, de manière absolue. Ça peut leur arriver de dire des vérités. Mais la seule vérité, c'est la Bible qui dicte ce que c'est. C'est-à-dire que si ces personnes disent la même chose que ce que Dieu dit, alors ils disent la vérité. Mais sinon, ils ne disent pas la vérité. Et c'est pour ça qu'il est dit que tout homme soit reconnu menteur devant Dieu. Et pour ça, il faut aussi qu'on le reçoive. Parce que lorsque justement quelqu'un va nous dire « Tu es devenu cinglé », qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on dit « C'est la vérité? Je suis vraiment devenu cinglé? Est-ce que vraiment, oui, je suis en train de faire une folie? Je suis en train d'aller sur un terrain où je ne devrais pas aller? Ou est-ce que je me rappelle que Dieu m'a dit « Vas-y, et je serai avec toi ?» Notre choix, il est là. Et le fait de se rappeler ce que Dieu a dit, c'est justement les racines. Parce que c'est dans la parole qu'on va trouver ce que Dieu nous dit. C'est dans la parole qu'on va lire ce passage qui dit « Oui, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Si on n'a pas planté ça dans notre cœur, au moment venu, ça ne ressortira pas. Et donc on dira « Ben oui, je suis tout seul, je suis le plus malheureux, personne ne m'aime, le monde entier me rejette. » L'autre point à savoir, c'est que il est dit « Les tribulations et la persécution surviennent à cause de la parole. » La cause des tribulations et des persécutions, pas de toutes bien sûr, mais en tout cas ce qui nous concerne dans notre cas précis, c'est à cause de la parole. Si la parole est prêchée, et si elle est prêchée correctement, il y a toujours un retour. Ce retour, il peut être positif ou négatif, mais il faut le savoir, ça existe. Ça veut dire que vous ne devez pas prendre les choses à titre personnel. En fait, même quand la personne la plus proche de vous va vous dire « Tu es en train de faire la plus grosse bêtise de ta vie, de t'engager, de croire à ces balivernes-là qui sont écrites là-dessus. » En fait, sans le savoir, c'est une œuvre du diable qui s'attaque à la parole. Ce n'est pas cette personne contre vous. Ce n'est pas vous qui êtes attaqué, ce n'est pas à titre personnel, c'est la parole qui est attaquée, parce que c'est une persécution à cause de la parole. Ce serait différent si vous aviez fait une crasse, hein, et que quelqu'un vous fasse une remarque, ça c'est autre chose. Si vous faites quelque chose qu'il ne faut pas et que vous êtes repris pour ça, c'est normal. Ça, ce n'est pas une persécution, c'est justice. Hein. Mais dans le cas de la parole, dans le cas où vous faites des choix et vous dites « Moi, je crois que mon Dieu guérit » et que quelqu'un vient te dire « Tu es fou », là, c'est la persécution à cause de la parole. C'est exactement ça. Et sachez que ce n'est pas dit à titre personnel contre vous. La personne qui vous dit ça, en fait, n'en a rien contre vous parce que on est dans la même logique que quand Jésus s'est adressé à Pierre et lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Il y a l'ennemi qui est en train de donner une parole pour lutter contre la parole de Dieu. Et c'est ce qui est en train de se passer dans les exemples que je donne. Ce n'est pas à titre personnel. Ne le prenez pas à titre personnel. Prenez-le contre une attaque, contre la parole sur laquelle vous voulez vous baser. Un autre point aussi à savoir, c'est que les tribulations, les persécutions ne font pas de nous quelqu'un de meilleur. Je le dis parce que ça peut arriver dans le monde chrétien qu'on voit ça comme ça. On dit « ben oui, donc... j'ai été persécuté, ça me rend un peu meilleur, ça me rend sage, j'ai compris si j'ai eu telle maladie et Dieu m'a enseigné là-dedans, etc. etc. » Il faut comprendre l'enjeu spirituel. L'enjeu spirituel, c'est le diable vient pour voler cette parole qui est en vous. D'ailleurs, c'est ce qui est dit dans Jean 10:10, vous vous rappelez de Jean 10:10? Le diable ne vient que pour égorger, dérober, qui veut dire voler et détruire. Qu'est-ce qu'il vient voler? Il vient voler la parole, il vient voler ce qui a de la valeur en vous. C'est vraiment un combat. L'autre point aussi, c'est de savoir que, et je ne vais pas m'étendre dessus, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est de savoir que Dieu ne contrôle pas de manière souveraine tout ce qui se passe dans votre vie. Dieu ne contrôle pas de manière souveraine tout ce qui se passe dans votre vie. Il y a un passage qui Matthieu 10, 29, qui est souvent utilisé pour prouver le contraire. Et du coup, je vais vous le lire. Matthieu 10, 29 nous dit « Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. » Et là, les gens vont dire « Oui, effectivement, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est la volonté de Dieu. Même jusqu'au moindre petit passereau qui tombe à terre, Dieu l'a voulu. S'il est mort, c'est que Dieu l'a voulu. » Eh bien, il y a toute une page entière dans une prochaine leçon qui parle de ça. Sachez juste rapidement, le mot volonté n'est pas dans la Bible. C'est rajouté par les traducteurs. Et selon vos versions françaises, vous verrez qu'il n'y a pas le mot volonté. Le vrai sens, c'est « il n'en tombe pas un à terre sans votre père ». C'est-à-dire Dieu prend compassion de tous. Dieu est à côté de vous même quand vous souffrez. Dieu est avec vous même quand vous êtes au sein de l'épreuve. Dieu n'est pas celui qui vous envoie l'épreuve. Tous les événements qui se passent ne sont pas forcément la volonté de Dieu autour de nous. Sinon, il nous aurait même dit de prier « Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Il faut aussi qu'on puisse tirer des leçons de toutes les expériences qu'on a. Et ça paraît logique, hein, évidemment. Chaque fois qu'on se fait persécuter, à chaque fois qu'on va avoir des difficultés dans notre vie dessus, tirons des leçons. Peut-être qu'il faut acquérir plus de sagesse, peut-être qu'il faut acquérir plus de discernement, peut-être qu'il faut être plus ferme des fois, je ne sais pas, mais il faut tirer des leçons de ce qui se passe. Ne pas le prendre en titre personnel, voir que le plan général, c'est le diable qui essaie de voler la parole, parce qu'il y a une puissance dans la parole, et s'il arrive à vous voler cette parole, alors elle n'accomplira pas son effet, et vous ne serez pas sauvé, guéri, délivré, libéré, etc., de tout ce que Dieu veut pour vous. Voilà pourquoi il veut enlever cette parole. Voyez également que ces personnes ont continué à croire, mais qu'elles ont perdu leur enthousiasme, elles ont perdu leur joie. Puisqu'il est dit qu'au début, elles ont tout reçu avec joie, et qu'après, à la fin, ben, finalement, elles sont scandalisées, ça n'a plus. Et il ne faut pas, sous prétexte d'éviter la persécution, sous prétexte d'éviter les tribulations, il ne faut pas diluer le message de l'Évangile. L'Évangile, littéralement, ça veut dire une nouvelle trop belle pour être vraie. L'Évangile, en fait, c'était un terme grec qui était utilisé de manière séculière avant que Jésus l'utilise pour définir ce que c'est que l'Évangile. Il m'est arrivé quelque chose de tellement beau que j'arrive pas à y croire. C'est ça l'Évangile. Si on réduit l'Évangile à moins que ce que Dieu veut, on va diluer la parole et on va passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. On aura nous-mêmes fait l'œuvre du diable, quelque part. Il y a des gens qui vont dire, par exemple, que Dieu ne guérit pas aujourd'hui. Eh bien, tu diminues, tu dilues la valeur, la puissance de la parole, la puissance de l'Évangile. Il ne faut pas qu'on fasse ça. Il faut qu'on soit entier dans ce qu'on croit. Il faut qu'on arrive au point où on sache... Oui, c'est écrit, c'est vrai. Je le crois. Remarquez d'ailleurs que c'est de cette manière que Jésus a vaincu la tentation qui a été amenée par le diable lui-même. Il s'est basé sur la parole. Voyez la puissance de la parole jusqu'à vaincre le diable, alors qu'à ce moment-là, Jésus n'était pas encore passé par la croix. Il ne l'avait pas encore dépouillé. Et pourtant, il a vaincu à ce moment-là. On doit être entier dans ce qu'on croit. Galates 1, par exemple, vous connaissez ce passage où Paul dit si quelqu'un amène un évangile qui s'écarte de celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. C'est entier, hein? c'est dur comme parole. Et il dit si c'est un ange, et juste après il répète en disant même si c'est un homme, hein, qui nous... moi je ne veux pas entendre autre chose que la bonne nouvelle. Et on ne doit pas, nous, sous prétexte d'éviter la tribulation, d'éviter les persécutions, diminuer ce que Dieu veut pour nous. Parce que si on diminue ce que Dieu veut pour nous, comment pourra-t-on grandir au point d'être cet arbre qui va accueillir les oiseaux du ciel sous le rombre? Comment est-ce qu'on pourra répondre à ce qui est écrit dans Romains 8 où il est dit « La création tout entière soupire auprès de la manifestation des fils de Dieu » si on diminue sa propre parole? Donc il ne faut pas, il faut être ferme là-dedans. Je vais vous lire également Hébreux 11, 15. C'est un petit verset qui ne paye pas de mine et qui a beaucoup de puissance. Hébreux 11, vous savez, c'est ce passage sur la foi. Et là, il est parlé d'Abraham et de Sarah, verset 15. « S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, c'est-à-dire la patrie d'où ils étaient sortis, ils auraient eu l'occasion ou le temps d'y retourner. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, Abraham a fait un choix. Il a dit « Je vais quitter mon pays, ma famille, je vais quitter et je vais aller là où Dieu m'a envoyé. » Et ce passage, qui est le passage de la foi, nous dit très clairement, si Abraham et Sarah avaient gardé en pensée le pays d'où ils venaient, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Ils auraient été tentés d'y retourner. Ce qui nous fait comprendre qu'ils sont allés vers le pays promis parce qu'ils ont renoncé à penser à ce qu'ils laissaient derrière. Nous devons faire le choix de dire « Maintenant, je m'appuie sur la parole de Dieu. » Et remarquez que là, il est parlé d'une tentation, d'une occasion. Ils auraient pu chuter, ils auraient pu faillir. et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas pensé, qu'est-ce qu'il a dit, ils n'ont pas eu en vue là d'où ils venaient, ça ne les intéressait pas. Entre parenthèses, remarquez que c'est ce qui s'est passé avec la femme de Lot aussi. Par rapport au fait des tribulations, il y a deux petits points que je veux vous donner là. L'importance, c'est de prêcher cette bonne nouvelle, c'est de vivre cette bonne nouvelle, c'est que pour nous, elle soit vécue. Il faut garder la priorité sur le fait de prêcher l'évangile. Il ne faut pas utiliser cette énergie pour nous défendre nous-mêmes contre les tribulations. Si vous passez du temps à défendre vous-même, « Oh, mais il m'a accusé de ça, mais en fait, non, c'est pas vrai, si ça... » Vous perdez votre temps. Vous êtes comme si vous étiez dans une course, vous courez un 100 mètres, vous allez vers le but, et des gens, des spectateurs vous disent « T'es nul, tu cours pas comme il faut. » Si tu t'arrêtes et que tu dis « Si, mais je cours comme ça, regarde bien, tu as perdu ta course. » La priorité, c'est prêcher l'évangile, c'est pas se défendre nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que Hébreux 10, 30 nous dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution de l'Éternel. » C'est lui qui nous défend. C'est lui qui est notre juste juge. Donc ça, ça doit aussi nous encourager. Lorsqu'on se fait persécuter à cause de la parole, c'est important, de persécuter à cause de la parole. Voilà, donc j'en reviens, il faut que la parole ne soit pas diluée, il faut qu'elle soit prêchée comme elle est, et il ne faut pas qu'on force la parole à coïncider avec ce qu'on croit. Il faut qu'on force ce qu'on croit à coïncider avec la parole. Il y a des gens qui croient des choses et qui vont essayer de trouver, de faire dire à la parole de Dieu des choses qui vont correspondre à ce qu'ils croient d'abord. Non, il faut être dans une situation où je suis prêt à croire ce que dit la parole. Il y a une personne que j'aime bien qui disait « Si la Bible disait que Jonas avait avalé le poisson, mais je le croirais. » C'est pas le cas, heureusement. Mais l'image qui est donnée, ça veut dire « Je ne fais pas passer mon raisonnement, je ne fais pas passer mon intelligence, mon choix, ma manière de voir la chose avant la manière de voir du Seigneur. » Et remarquez aussi que partout où Jésus est allé, il s'est produit soit un réveil, soit une émeute. Il y a toujours eu quelque chose. La parole a un effet. Mais Jésus prêchait la parole ferme, de manière ferme, en réalité. Paul, c'était le cas aussi. Hein. Paul a été persécuté parce qu'il prêchait la parole au point même d'être lapidé. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir, ça. Se dire jusqu'à quel point on peut prêcher l'évangile au point d'être lapidé. Il y avait des choses qui étaient fortes qu'il devait dire quand même. Hein. Il ne devait pas les caresser dans le sens du poil. Hein. Et remarquez d'ailleurs que Paul, pour en revenir là aussi, ne s'est pas défendu à chaque fois bec et ongles. Vous vous rappelez de cet épisode où il n'a dit qu'après qu'il était romain ? S'il avait été romain, il ne serait pas allé en prison. Il ne s'est pas tout de suite jeté pour se défendre. Il avait acquis de l'expérience, il avait acquis une compréhension de qu'est-ce qui est important. Prêcher l'évangile, c'est ça qui est important. Dieu est mon juge. Dieu me délivrera. Si je suis persécuté à cause de ça, quelque part c'est le problème de Dieu qui défend sa propre parole. Et voilà, pour être complet, je vais terminer là-dessus, sachez de toute manière que les scandales vont se produire, on ne peut pas les éviter. C'est pour ça que ça ne sert à rien de diluer la parole, ça ne sert à rien de réduire son message, les scandales vont se produire quoi qu'il arrive. Il y aura toujours quelqu'un dont vous allez caresser le poil dans le mauvais sens. Vous savez comment on fait quand vous voulez caresser un chat et qu'il a ses poils qui vont dans le mauvais sens ? Il faut le retourner et tu continues à caresser de la même manière. C'est la convention. Les scandales vont se produire, c'est ce qui nous est dit dans beaucoup de versets, donc c'est pas dans vos notes, vous pouvez les noter si vous voulez. Jean 16, 33. 1 Thessaloniciens 3, 3. Actes 14, 22. Marc 10, 30. J'en ai pris très peu, il y en a beaucoup en fait. Hein, qui nous disent qu'effectivement la persécution est là, la persécution vient. Elle est normale, on ne doit pas... Si on en a trop peur, qu'est-ce qu'on va faire ? On va diluer le message de l'Évangile, on ne va pas pouvoir du coup avoir des racines suffisamment profondes, on ne va pas produire du fruit comme il le faut. Et par rapport à tous ces versets qui parlent de persécution, Jean 16, 33 nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde. » Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça ne veut pas dire vous n'en aurez pas, ça veut dire vous en aurez, mais je suis avec vous. Vous pourrez vous appuyer sur moi, je suis avec vous quand ces tribulations seront là. Et elles peuvent être de tout ordre. Et maintenant, regardez ce qu'il est dit dans Romains 8. Ça, c'est merveilleux. Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée.
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Rien, rien, rien. Même pas les tribulations, même pas les persécutions. Donc ça n'est pas un bon argument d'avoir peur de la tribulation. On ne va rien perdre, on va garder tout l'amour de Dieu pour nous. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il ne faut pas, parce qu'on espère se faire apprécier de telle ou telle personne, diminuer le message de l'Évangile. Il est ce qu'il est, on sème la parole. Elle doit faire son chemin dans le cœur. Et les gens ont besoin de voir les fruits dans votre vie. C'est de ça dont ils ont besoin. Voilà. On terminera demain les deux autres sommets.